Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous un sujet qui est d'une actualité brûlante, un sujet qui nous a fait frémir tous d'horreur, parce qu'avec avec vous, eh bien, j'ai été très douloureusement frappé par le rapport de la SIAZ, le rapport Sauvé. Et ce rapport me renvoie un petit peu à l'image de ce que devrait être un prêtre, de ce que devrait être notre Église, et même de ce qu'est un prêtre ou de ce qu'est l'Église. C'est quelque chose qui me tient à cœur et qui m'est venu vraiment dans la prière parce que, voilà, on n'est pas sans question face à tout cela. À vrai dire, ce serait stupide, je crois, de chercher dans le mode de rédaction du rapport, dans la manière dont il a été traité ou dont il est présenté des espèces d'éléments pour s'excuser, pour fuir. La réalité, elle est là. La réalité, elle est là, elle est cinglante, et nous revient dans le visage, et nous revient dans la figure. Alors, qu'importe tout ce qu'on peut dire d'autre à côté. Voilà, on pourrait dire des tas de choses sur les abus, sur les mineurs, sur la pédophilie, sur toutes les violences dans le reste de la société, dans tellement d'autres institutions. Ça n'est pas notre propos. Nous restons abasourdis parce que ça s'est passé chez nous. Chez nous. Et cette vérité qui nous est demandée sur ce qui a été fait, sur ce qui a été quelquefois passé sous silence, ce qui a été parfois ignoré, nous met en face d'une cohorte terrible qui est celle des enfants, aujourd'hui parfois hommes et femmes, qui ont été victimes de toutes ces agressions. Et je ne peux m'empêcher de penser à toutes ces vies qui ont été brisées, tous ces hommes et ces femmes, ces enfants qui étaient créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et que des religieux ou des gens de l'Église ont défigurés, comme marqués au fer rouge au plus intime de leur cœur. Des gens que l'institution, que chacun de nous, que quelquefois nos familles, nous avions un peu ou totalement abandonnés dans leur souffrance. Nous avions détourné le regard. Oh, nous étions perdus, je ne sais pas, c'est difficile. Bien sûr, on peut toujours arguer que on ne savait pas notre ignorance. Vous savez, on entendait toujours brocarder sur la chose, brocarder les curés par toutes sortes de gens qui étaient des anticléricaux ou autres. Et alors, on se disait, ils exagèrent ou bien ils fantasment. Mais non. Alors, 3% de détraqués, ça fait pas 97% d'hommes et de femmes fidèles. Et c'est pour ça que je voulais vous parler. C'est pour ça que je voulais vous parler d'espérance. Malgré l'horreur. Parce qu'il y a une horreur. Et ensemble, on porte tous le poids du péché de quelques-uns. Et c'est sur tous que tombe l'opprobre. C'est dans le cœur de tous que naît la honte. Et avec nos évêques, on se trouve devant un abîme de questions et d'incompréhension sur le pourquoi, sur le comment. Comment est-ce que ça a pu se produire? Comment est-ce que ça a pu se produire chez nous? Pourquoi ça a pu se produire? Comment ça s'est produit au point que tant de vies aient été ravagées? Bien sûr, il y aurait eu un seul, c'était déjà un trop, mais autant. Alors, face à la publication de ce rapport, eh bien, nous avons devant nous un temps de réflexion et un temps d'action. Moi, honnêtement, je comprends la colère de ceux qui nous en veulent. À leur place, je ne sais pas ce que j'aurais été, je ne sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais peut-être été porté par plus de rage. J'aurais peut-être été complètement anéanti, complètement détruit, je ne sais pas. En entendant parler de ce rapport, en entendant ces choses, moi j'ai l'impression de prendre conscience qu'ils ont été si nombreux à traverser l'enfer. vous dis, je croyais que c'était anecdotique, que c'était rarissime. J'étais peut-être dans l'angélisme. Mais en fait, il y a un océan de souffrance devant moi. Je ne sais même pas, en fait, je dois vous avouer, je ne sais même pas si je suis capable de comprendre ce que vivent ou ce qu'ont vécu les victimes. En fait, même, pour être honnête, je pense que je suis juste capable de comprendre qu'ils vivent quelque chose qui m'échappe. Totalement. Je ne sais même pas quoi dire, tellement ça dépasse les mots. La réalité, c'est que, en fait, je ne suis pas à la place des victimes. La réalité, c'est que moi, je ne suis pas une victime. Je suis simplement un homme, sans grande blessure. Oh, comme tout le monde, parce que dans ma vie de prêtre, hein, je suis prêtre depuis 1994, je n'ai pas rencontré de personne qui n'ait pas des blessures dans sa vie, bien sûr. Mais finalement, quand on regarde les choses, honnêtement, ce sont souvent des égratignures, hein. Ce sont souvent des petites choses qui ne sont graves que parce qu'elles nous arrivent à nous et pas aux autres. Mais non, c'est ça, finalement, je suis un homme sans grande blessure. Il se trouve que cet homme est prêtre. Et comme prêtre, voilà, je voudrais aussi vous témoigner de tout ce que l'Église a fait de bien dans ma vie, a fait de beau dans ma vie, pour que moi je puisse être un homme debout, pour que moi je puisse être un homme qui se tient devant vous et qui témoigne de tout ce qu'il a amené à suivre le Christ, à suivre notre Seigneur Jésus. Je voudrais vous parler de tous ces hommes, toutes ces femmes, dont le visage et l'action ont marqué mon enfance, ont marqué ma jeunesse. Tous ces hommes et toutes ces femmes qui sont l'Église du Seigneur et qui, chacun à sa manière, ont su me marquer, ont su jalonner le parcours de mon existence, qui ont accompagné mes jours. C'est un peuple, et c'est un peuple qui marche derrière et avec ses pasteurs, qui m'a transmis jour après jour la compréhension et la connaissance de ce qui aujourd'hui fait le trésor de mon existence et de ce qui fait aujourd'hui, comme je vous le racontais le mois dernier, fait que je suis prêtre. C'est que je sais que je suis aimé de Dieu. Je sais que chacun de nous est aimé de Dieu d'une manière unique et totale. Et je peux vous dire que cet amour de Dieu, eh bien, je l'ai expérimenté de plein de façons, mais je l'ai expérimenté au plus intime dans l'Église. D'abord, par cette première cellule de mes parents, de ma famille, mes frères, mes cousins, mes cousines, tous ceux qui m'ont entouré. Alors, peut-être me direz-vous, c'est pas le sujet, on a parlé du péché de l'Église. Pensez que les familles ne sont pas en cause et que c'est l'institution seule. Je suis pas d'accord, moi, je suis désolé. Parce que c'est solidairement que nous portons le péché de quelques-uns. Et je me dis, qu'est-ce qu'aurait été la réaction des miens si j'avais été abusé enfant? Est-ce qu'ils auraient été capables, en mesure d'absorber cette souffrance? Est-ce qu'ils auraient été capables, en mesure de me comprendre, de réagir s'il en avait été autrement? Tout est tellement difficile. Tout ce que je sais, c'est que l'attention des miens, leur amour parfois maladroit, mais qui était pétri de foi et d'espérance, leur amour a préparé mon cœur et a préparé ma vie. Et cela m'a construit autant que je me suis construit moi-même par la suite. Et c'est de cela dont je veux vous parler. C'est de la beauté et de l'espérance de ce que nous recevons, de ce que l'Église a fait dans ma vie, dans vos vies. Parce que tous, nous sommes marqués par des visages, des gens qui ont été des prophètes dans nos existences, qui nous ont montré la trace de la présence du Seigneur, qui nous ont montré le chemin du bien, le chemin du beau, le chemin du vrai. Et que dire avec ma famille, de tous ceux qui m'ont entouré, que j'ai croisé, et qui chacun avec son caractère, chacun avec son charisme, chacun à sa manière, est venu éclairer ce qui pour moi était la foi, l'attachement à l'Église, l'attachement au Seigneur. J'ai souvenir, quand j'étais petit, tout enfant, d'un dominicain qui était au couvent de Paris. Et c'était un ami d'enfance de ma grand-mère. Autant vous dire que c'était déjà pour moi un vieil homme. Et qui venait de temps en temps passer quelques jours de vacances en famille, là où nous-mêmes nous étions chez nos grands-parents avec les cousins, les oncles et tantes. Cet homme qui était un puits de science théologique et qui, à sa manière, avec peu de mots, nous montrait la grandeur et l'altérité de Dieu. Nous faisait sentir, alors que nous étions des bambins, je pense que j'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans, alors que nous étions des bambins, qui nous faisait ressentir cette grandeur et cette altérité du Tout-Puissant. Un homme qui, à sa manière, a marqué mon cheminement. Je me souviens aussi du Père Pierre, du diocèse de Nanterre, qui était prêtre en région parisienne, à Saint-Cloud, là où j'ai grandi. Le Père Mavray venait à l'école et il animait le temps de catéchèse. Il animait les temps liturgiques, les temps de prière à l'école. Je me souviens de sa patience. Oh, j'étais pas bien grand et donc je me souviens pas de tout. J'avoue que je me souviens de lui surtout quand il chantait « Les mains ouvertes devant toi, Seigneur ». Et rien que ce chant était un enseignement. Rien que ce chant était un appel à être encore plus des enfants dans la douceur, dans la pureté, dans l'accueil tout simple du Seigneur, de ces enfants dont Jésus disait « Laissez-les venir à moi » et dont Jésus disait « Celui qui n'a pas le cœur comme celui d'un enfant n'entrera pas dans le royaume des cieux. » Le Père Pierre. Je me souviens de tous les aumôniers qui ont jalonné ma vie scout. Voilà, mes chefs scouts. Qu'est-ce que ces grands gaillards qui étaient étudiants, qui avaient peu de temps pour eux, avaient à faire de bambins que nous étions de gamins, sinon dans un grand désir de nous transmettre quelque chose qui est encore plus grand, plus beau, faire attention aux autres, se pencher sur l'autre, être comme un frère pour chacun. Voilà ce qu'ils m'ont enseigné. Voilà les chemins qu'ils m'ont fait prendre. Auprès d'eux, j'ai appris jour après jour à prendre soin de mes frères, à prendre des initiatives, à me tourner vers l'autre. Tout ça, c'est l'Église en marche. C'est le peuple qui est venu accompagner ma croissance. Je pense au professeur que j'ai eu dans l'enseignement privé, une professeure d'allemand, qui est resté cher à mon cœur. Et il m'arrive encore d'avoir aujourd'hui quelques nouvelles. Un jour, j'ai eu la surprise, quand j'étais recteur des Invalides à Paris, de la voir venir à une messe de Noël et de me tomber dans les bras. Extraordinaire. L'amitié et la fidélité qui peut se creuser. Je pense à un professeur d'histoire géo. Là, c'était dans le public, c'était un professeur qui, à sa manière, m'avait appris que on peut être donné, même sans être capable de prononcer le nom de Dieu. Dans une belle générosité. Et en même temps, dans une maladroitesse, quelquefois, avec des limites. Combien de fois, ces professeurs qui m'ont fait grandir, je me suis moqué d'eux, ou avec les copains, on leur trouvait tous les défauts. Et pourtant, ce sont eux qui nous ont accompagnés, ce sont eux qui nous ont fait grandir. Et ça aussi, c'est l'Église en marche qui nous amène à notre croissance. Je pense ensuite, quand je suis entré dans l'armée, après mon bac et que je suis devenu sergent, à mes aumôniers militaires. Le Père Noël, ça ne s'invente pas. Le Père Noël, qui était un malgache. Père Noël qui, à sa manière, m'a fait comprendre combien finalement la vocation de militaire et la vocation chrétienne étaient semblables. Combien l'une comme l'autre était un appel à se donner. L'une comme l'autre était un appel à s'abandonner pour que les autres puissent vivre mieux, vivre plus grand, vivre plus beau. Ouais, le Père Noël à Saint-Mexant. Et puis, le Père Max. Ah, il faut que je vous parle du Père Max. Le Père Max, c'était un aumônier militaire atypique. C'était un prêtre des missions africaines de Lyon, des missions étrangères, des missions africaines de Lyon, ouais. Un MISDAF. Et Max avait passé 15 années en brousse. Et quand je dis en brousse, il me racontait des trucs extraordinaires. Il arrivait dans les villages et pour l'accueillir, on lui servait le meilleur morceau. On tuait un facochère, on lui filait le meilleur morceau. Et le meilleur morceau, c'était ou la langue qui était à peine cuite ou les tripes nettoyées dans le ruisseau du village. Donc, vous imaginez la chose. Max qui avait eu le malheur de perdre sa sœur, son unique sœur, dans un accident de voiture. Elle était morte avec son mari. Et Max, qui était revenu en France, qui avait été arraché à sa brousse, arraché à sa vie de missionnaire où il était si heureux, et qui est entré dans l'aumônerie militaire, parce que c'était à la fois la manière qu'il pouvait avoir de continuer à être prêtre, être missionnaire, et en même temps avoir des revenus financiers suffisants pour pouvoir assurer la vie de ses neveux et nièces qu'il avait pris à sa charge. Quelle belle figure. Pourtant, tous les jeunes tradis hurleraient en le voyant avec sa chemise à carreaux, avec son air de vieux 68ard, avec ses grands mots, ses grandes paroles, ses grands éclats de voix. Un personnage haut en couleur, si différent de moi. Et pourtant, qu'est-ce qu'il était beau. Qu'est-ce qu'il avait une âme extraordinaire. Un homme qui s'était donné pour les siens, qui s'était donné d'abord totalement à la mission africaine, puis qui s'était donné totalement pour sa famille, qui s'était donné totalement pour les petits soldats que nous étions. Oh, on n'était pas toujours faim. Quand je repense à ce que j'étais quand je suis arrivé auprès de lui, il était aumônier à Metz, quand je suis arrivé jeune sergent à Metz, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'avais le cœur dur. Je jugeais tout le temps. J'étais tout le temps dans cette espèce de recherche de l'assurance que l'on a quand soi-même on se sent fragile et qu'on affirme les choses avec insolence, l'insolence de la jeunesse, pour pouvoir se protéger. Et comment Max a accompagné jour après jour ma vie de petit sergent pour me faire comprendre que la foi, c'était autre chose, que le don de soi. C'était pas uniquement d'aller libérer Jérusalem avec une bannière de croisée, mais que c'était d'abord de se pencher sur le plus petit. C'était pas de fantasmer une chrétienté d'ailleurs, une chrétienté d'autrefois, une chrétienté absolue, mais c'était d'être chrétien là où l'on est, dans son emploi, dans sa vie, au milieu des siens. Alors vous voyez, Max, quelle belle figure, si différent de moi, et en même temps, si proche. Et puis, je pourrais encore vous donner tant de noms. Après je suis entré au séminaire, grâce aussi au travail de Max, où j'ai compris que j'étais aimé, que j'avais pas besoin de forcer le trait. Il y a eu le père Joseph, le supérieur, le père Joe, tout en finesse. Père Jean-Paul, qui a continué. Aujourd'hui, Jean-Paul est archevêque de Bordeaux. Tous ces gens-là. Et puis encore plus particulièrement, le père Jean-François, qui était un de nos professeurs et qui nous a fait preuve de tellement de patience, tellement de douceur. Un homme bon. Un homme qui m'a révélé ce que c'était que la beauté de la bonté. Qui m'a montré à quel point cette bonté, cette patience pouvait permettre à un autre homme de grandir et de s'épanouir. Aujourd'hui, Jean-François est père de foyer de charité. Tous différents, vous voyez, tous l'Église. Alors, amis auditeurs, que puis-je vous dire sinon qu'il y a un vrai message d'espérance? Tous ces hommes qui m'ont fait passer d'un cœur parfois endurci, qui jugeaient les autres, à un respect profond de la personne humaine, à un désir profond du respect de la dignité de chacun. Tous ces hommes qui m'ont préparé, jour après jour, à être ce que je suis aujourd'hui, aumônier militaire, pour que, au quotidien, je puisse, moi, jour après jour, eh bien, essayer d'être à l'écoute des soldats, aujourd'hui dans un poste différent, à l'écoute des aumôniers, mais toujours à l'écoute, et j'espère, toujours au service. Voilà pourquoi, même si mon cœur est retourné par ce que nous avons appris cette semaine avec le rapport de la commission Sauvé, voilà pourquoi je veux demeurer dans l'espérance. Parce que j'ai eu tant de belles figures. Je pourrais encore vous en citer, cet officier, pas épargné par la vie, il a perdu un enfant. Cet officier qui, depuis son passage en école, jusqu'à la fin de sa carrière, il a fini général à 4 étoiles. Cet officier qui tenait tous les jours un carnet spirituel sur la profondeur de son engagement, engagement au service des autres. Engagement au service de sa famille, engagement au service de sa foi. Voyez, nous avons tant de visages que nous croisons, qui font du bien, qui font du beau. Alors, même si nous sommes à l'heure de la vérité, même si nous avons besoin d'entrer dans un vrai processus de purification, même si nous devons vivre des conversions profondes et accepter de nous laisser interroger en profondeur par tout ce qui s'est fait. Je sais, je crois et j'espère qu'ensemble, en Église, nous allons pouvoir être de nouveau, selon le cœur et l'image de Dieu, les serviteurs qui amènent au monde plus de paix. Je vous l'ai dit, c'est bien l'engagement de ma vie d'aumônier militaire, c'est bien l'engagement de la vie de tant d'hommes et de femmes au service de l'Église. C'est cet engagement pour lequel nous entendons chaque jour résonner à la messe. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Alors, restons humbles. Restons doux. Soyons à la recherche de la vérité. Soyons à la recherche de la justice. Parce qu'il n'y a pas de vérité sans justice. Il n'y a pas de justice de Dieu sans justice des hommes. Mais restons dans l'espérance et continuons dans la confiance à nous tourner vers notre Église, cette mère maladroite quelquefois, blessante parfois, mais cette mère qui nous conduit au Christ. C'est notre espérance, c'est notre foi. Amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, je suis heureux d'avoir pu passer ce moment où j'ai essayé d'ouvrir mon cœur. Je suis heureux d'avoir passé ce moment avec vous où j'ai essayé de vous dire mon espérance malgré ma douleur face aux événements. Je suis heureux d'avoir été avec vous ce soir et je vous confie tous à la douce tendresse de la Vierge Marie, notre mère, elle qui pleure à chaque fois qu'on touche un enfant, elle qui espère à chaque fois qu'on lève les yeux vers nous, vers elle, à chaque fois que nous nous adressons à elle et que nous lui disons « Montre-nous les chemins de la pureté, montre-nous les chemins de la sainteté, montre-nous ton Fils, ô Marie, notre Mère. »